Corde 2022, Michel Bonnet. Bonjour aux uns et aux autres. Nous continuons sur la foulée de la dernière semaine où nous avons parlé de la place de la Grésigne, la place de la forêt de la Grésigne au moment de la création du comtat cordé autour de Cordes, n'est-ce pas, au XIIe, XIIIe siècle. Et nous continuons aujourd'hui. Et si vous avez eu le plaisir ou le temps d'écouter la dernière émission, nous l'avons un peu prolongée, nous l'avons terminée avec une conversation, avec des questions de Louise Souris, qui est une pas une cordaise, mais enfin quelqu'un du pays cordé, qui est de Noailles et qui vient ici pour faire un stage, et elle a bien voulu écouter assez attentivement pour se poser des questions et nous les poser, enfin voilà. Donc elle est un peu l'interlocutrice en quelque sorte, puisque elle va rassembler sans doute des questions que vous avez dans la tête, mais vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas comment les poser, vous voyez. Donc on va continuer dans notre conversation. On parlait donc de la Grésigne, et à partir de là, on va prolonger cette découverte, parce que la Grésigne était vraiment quelque chose d'extrêmement important dans la à l'époque de la fondation de Cordes. Aujourd'hui aussi, mais sans commune mesure à cette époque-là, c'était sans commune mesure avec le peu qu'on a aujourd'hui. Alors, Louise, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue. Alors, voyons, la parole est à toi.
Alors, en t'écoutant, j'ai compris que la forêt était un enjeu stratégique et financier, et j'aurais bien aimé savoir comment se passait la répartition de ces espaces, et quelle était la forêt la plus convoitée en France. Pourquoi ?
Alors, la plus convoitée en France, à cette époque-là, la France n'existe pas pour nous, on est en Occitanie.
Effectivement, pardon.
Donc les grandes forêts, ici, à Fontainebleau, il y a des grandes forêts dans le nord, mais dans le sud, il y a, ici dans la région, il y a la forêt de la Grésigne, qui est la première ou peut-être la seconde forêt du midi de la France. Il y a la forêt d'Irati en Pays Basque qui est énorme. Il y a à côté de Toulouse, mais de l'autre côté, par rapport à la Grésigne, à l'opposé, il y a la forêt de Boucone qui est très importante pour les habitants de Toulouse, mais qui est moins étendue, qui n'est pas du tout comme ici, parce que c'est beaucoup plus plat, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même terrain, donc c'est pas les mêmes arbres, en quelque sorte, pour ceux qui s'y connaissent, tu vois. C'est pas du tout les mêmes relations, parce que la forêt de Boucone, elle est très très touchée par les gens de Toulouse, qui ont besoin, une grosse ville comme Toulouse. Mmh. Toulouse, tu vois, c'est une ville à cette époque-là. Bon, ça paraît, ça peut te paraître tout petit, mais enfin, ça fait entre 30 et 40 000 habitants au maximum, quoi. Hein. Donc, tu vois, un peu, c'est pas énorme, mais pour cette époque-là, ça fait une demande, par exemple, de bois phénoménale, surtout que, étant en ville, on n'est pas du tout au milieu des bois comme ici, et donc il faut qu'on achète du bois, il faut qu'on se déplace, il y a tout un système d'achat, et donc, tu vois, dans les chartes, on dit que les gens ont le droit d'amener autant de bois que peut emporter un mulet, par exemple, tu vois, une charge de mulet, une fois ou deux fois, il y en a un, c'est une fois par an, il y en a d'autres, c'est deux fois par an, en fait, c'est très, 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 très touché par la vie toulousaine. Ici, c'est très différent parce que on n'a pas de ville. La petite ville qu'on a la plus importante, c'est Albi. Mais Albi, c'est de l'autre côté du Tarn. C'est un autre. C'est pas le comte de Toulouse. Albi, c'est les vicomtes de Trencavel. Après, ça passera au roi de France. Tandis que le pays cordé restera entre les mains du comte de Toulouse, au moins pendant quelques temps, bien sûr. On n'a pas de grosse ville. Gaillac, c'est tout petit, tu vois. On n'a pas cette pression d'un bloc de population sur la forêt. Il faut concevoir la relation population de cette époque et de la forêt sous la forme d'une convivialité. On vit avec la forêt, on vit dans la forêt. On est heureux dans la forêt, tu vois, on est enterré dans la forêt. Toute la vie se passe comme de la naissance à la mort, on ne sort pas de la forêt. C'est très rare, sauf quand l'Inquisition va venir et qu'on aura comme pénitence d'aller faire un pèlerinage à Rocamadour, alors il faudra sortir d'ici. Ouais. Mais autrement, on sort pas. En plus, c'est interdit par les lois que les puissants ont fait pour garder les travailleurs sur leur coupe, les empêcher de se balader, etc. Donc les seigneurs interdisent qu'on quitte leur territoire et les curés de paroisse interdisent qu'on quitte la paroisse. Tu vois. D'accord. Donc voilà la relation qu'il y a avec. Est-ce que ça répond à ton?
Oui, ça répond à ma question. T'amènes du grain à mon moulin. Et, je voulais savoir parce que. Moi qui vis pas dans la forêt, quand j'y vais, j'ai l'impression que je peux faire un peu ce que j'ai envie. Si j'ai envie de couper un arbre, je peux. Si j'ai envie de ramasser des champignons, je peux. Mais à l'époque du comte de Toulouse, qu'est-ce qui était interdit de faire dans la forêt? Qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit?
Déjà, je te signale que même aujourd'hui, t'as pas le droit de faire ce que tu veux dans la forêt.
Effectivement, je sais. Mais c'est pas. Non, je pense que c'était voilà. Pas.
On peut avoir
l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus
de la
tête.
Oui, tout à fait. Non, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. On a tous ce sentiment-là. Et d'ailleurs, on va chercher des champignons à la forêt, à la grédigne, et tout ce qu'on. Des tas de choses, quoi. Des tas de choses. On y va même à la chasse, des fois, etc. Oui. À l'époque, les gens qui vivent dans la forêt sont liés. On dirait aujourd'hui, avec un mot qui ne va pas bien, mais politiquement parlant, ils dépendent d'un seigneur, ils dépendent de quelqu'un. On n'est pas libre. Ça n'existe pas, tu vois. On n'est pas libre. Donc, on a une relation soit avec un seigneur, soit avec un curé de paroisse ou avec une abbaye, mais tout se ressemble. C'est un peu la même chose, le même système. Donc, il y a un seigneur qui a un pouvoir, hein, tu vois. Et la relation des gens qui vivent sur ce territoire, elle est très variée avec ce seigneur. Parce qu'il y en a qui sont complètement esclaves du seigneur, les serfs. Eux, on peut les tuer, ça ne posera pas de problème à personne. Ils n'ont rien à dire, ils sont comme cela de père en fils, ils sont dans une situation de servage. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas... Plus ou moins, c'est globalement, je te parle sur un siècle ou deux, quoi, tu vois. Mais à un moment donné, ne pouvant plus vivre normalement avec ce qu'ils avaient pour le bout de champ, le bout de vigne qu'ils avaient, etc., ils se sont vendus au Seigneur. Tu vois, ils ont dit au Seigneur, voilà, je me donne à toi avec ma femme, avec mes enfants ou moi tout seul, quoi, tu vois. Ils se sont vendus au Seigneur. Donc le Seigneur les a pris. En leur disant, bon, mais d'accord, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est des gens qui sont, bon, pas les domestiques au sens de faire le ménage, tu vois, mais c'est des serviteurs du Seigneur qui font ce qu'on leur demande de faire. Voilà, c'est cela. Mais il faut savoir que parmi ces serfs, obligatoirement, il y en a, ils ont des enfants. Il y a des enfants qui, les uns sont en forme et d'autres moins. Il y en a qui rêvent de liberté, comme aujourd'hui. Il y en a qui veulent faire des études et puis d'autres qui veulent aller au travail et puis d'autres et autre chose, enfin, etc. Et donc, ils ont là aussi des stratégies au fur et à mesure que ça s'améliore. En particulier, il faut savoir qu'à cette époque-là, à la fin du XIIe siècle, à peu près la deuxième moitié du XIIe siècle, il y a un réchauffement climatique assez important, qui fait que les récoltes, les arbres dans la forêt, les légumes, les fruits, et puis les animaux, tout ça, ça a reçu un boom, c'était super. Donc, les gens mangeaient mieux, il y avait davantage d'enfants, etc., quoi, tu vois. Et donc, il y a des serfs qui ont pu, à un moment donné, proposer au Seigneur d'être de nouveau libres. C'est-à-dire d'acheter en quelque sorte, tu vois. Ils ont fait des économies, ça. Il y a eu ce système-là où ils sont devenus simplement des travailleurs du coin, etc. Et puis, il y a eu un phénomène, c'est qu'il y avait des seigneurs ou des abbayes qui, surtout des seigneurs, qui rassemblaient des gens, tu vois. Quand l'Église le faisait, elle appelait ça des salvetats. Tu vois, il y a encore des villages aujourd'hui qui s'appellent la Salvetat, quelque part, quoi, tu vois. Voilà. Donc, un lieu qui était protégé par l'Église. C'est elle qui fixait les règles avec des croix autour du village sur le territoire pour dire à partir de maintenant, attention, c'est un terrain spécial, tu
oui.
vois, spécial, quoi. Donc les lois différentes, etc. Et puis il y avait des seigneurs, pareil, qui faisaient la même chose autour d'un château, tu vois. Et donc on appelait ça des villes, certaines, hein, ça dépend de la volonté du seigneur, certaines s'appelaient des villes franches. C'est-à-dire que là, le paysan, le serf, par exemple, une des stratégies de libération que les serfs avaient beaucoup, tu vois, on l'a vu un peu plus tôt, disons, à la création de Montauban, par exemple, ça c'est, en quelques semaines, c'est fou le nombre de gars qui se sont dit, ça c'est le coup de dé à prendre. Et donc, ils s'arrangeaient, soit ils fuyaient, si les conditions s'y prêtaient, ils disparaissaient purement et simplement, soit habituellement ils s'arrangeaient pour avoir la permission de leur seigneur, surtout si leur seigneur avait de bonnes relations avec le seigneur supérieur ou l'autre, le voisin. Donc, bon, ben, je te donne la permission d'y aller, tu me donneras un jambon à la place, et puis ça y est, ou trois poulets, voilà. Donc, il y a eu comme ça, ça a permis un mouvement un peu de libération de ces serfs. Mais il n'y avait pas que des serfs, loin de là. Il y avait des paysans qui étaient métayers. J'emploie un mot moderne. De toute façon, à l'époque, c'était des mots en occitan, donc c'est autre chose. Mais ils étaient métayers, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur un terrain qui ne leur appartenait pas, qui appartenait au seigneur, mais où ils devaient donner une partie, la moitié ou les deux tiers, ça dépendait de chacun, hein, tu vois, des accords qu'il y avait entre eux. Donc, ils donnaient une partie de la production au seigneur. Et donc ça, c'était très répandu. Et évidemment, le métayer, il essayait de donner le moins possible, et le seigneur, il essayait d'en prendre le plus possible, tu t'en doutes. Et quand le métayer devait donner, par exemple, on voit il y a des procès où le métayer doit payer un jambon une fois par an au seigneur, il s'est débrouillé des fois pour donner un jambon qui était un peu maigre, pas très bon, etc. Et le seigneur refusait. Quelquefois, il refusait, tu vois. Et il le mettait en procès, et ça passait, ça demandait du temps, etc. Donc, voilà, il y avait ce rapport métayer, tu vois, qui était assez fréquent, quoi, assez fréquent.
Skirt, even got dirt on the- I'm not the girl you take home to your mama. I'm not the girl. I'm not the girl you take home to your mama. I'm not the girl. I got you singing no, 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 no. I'm not the type you take home to mama. I got you singing no.
Je vous appelle pour vous...
Réagissez.
Allô, allô.
Jouez. Chattez. Chattez.
CFMradio.fr. CFM.
Tout CFM sur le net. CFM.
Corde 2022, Michel Bonnet. On parlait des relations, donc, aux alentours de la Grésigne, enfin sur la région ici, entre les seigneurs, au sens large du mot, et les gens qui vivaient là. Alors, donc, il y avait des serfs qui étaient... on pourrait dire, en termes modernes, l'équivalent d'esclaves, mais il y avait la plupart n'étaient pas des serfs, étaient des paysans qui travaillaient comme métayers. Mais là-dedans, il y avait également des paysans qui travaillaient, on pourrait dire, à la journée, dont le travail était fixé sur un terrain. Le terrain appartenait au seigneur, eux habitaient là, mais... Ils faisaient le travail que le Seigneur leur donnait. C'est-à-dire, ils se spécialisaient, si tu veux, un peu. Tu vois. Et ce qui se passait, c'est que, par exemple, eh bien, il y en a qui savaient conduire des bœufs pour labourer. Le Seigneur restait propriétaire des bœufs, par exemple. Mais il confiait les bœufs et il disait, bon, mais tu vas labourer à tel endroit, tu vas labourer à tel endroit. Parce que autour des châteaux, il y avait d'un côté une part du terrain, du territoire qui appartenait à l'ensemble du système, de la commune, tu vois, etc. Mais il y avait un bout de territoire qu'on appelait la réserve seigneuriale, tu vois,
oui.
qui appartenait strictement au seigneur et qui en faisait ce qu'il voulait. Un culte en friche, n'importe quoi, tu vois. Et c'est là où, très souvent, il donnait des travaux particuliers à donner à des travailleurs qui étaient là. Et puis, tu as... progressivement, il y a des travailleurs qui se sont spécialisés parce que le Seigneur en avait besoin, parce que la vie de la communauté en avait besoin. Tu vois, le cuir, par exemple, on a absolument besoin. On peut pas s'imaginer de vivre sans cuir pour le harnachement des chevaux, pour des ceintures, des tas de choses comme ça. Quoi.
Les chaussures, non ?
Les chaussures pour les seigneurs, oui. Donc, il y a tout ce... Donc, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, dans l'industrie. On dirait aujourd'hui l'industrie du cuir, tu vois. Mais le tissage, c'est la même chose, très important, tu vois. Le tissage, il y a des tas de métiers du bois qui étaient aussi importants comme cela. Et donc, les relations avec le Seigneur étaient particulières en ce sens-là. C'est que ils travaillaient, ils avaient tendance à travailler à la commande. Et c'est là où Corde va amener une grosse différence, c'est que les artisans qui vont se retrouver dans un village comme Corde vont travailler du matin au soir, par exemple, à faire du tissage, à faire de la teinture, à faire de la poterie, etc. Et donc, ils vont avoir un surplus. Ils ne travaillent pas selon la demande d'un seigneur. Ils travaillent selon leur capacité de production. De productivité, plus ou moins, tu vois, etc. Donc, il faut qu'ils vendent, tu vois. Ils sont obligés. Et c'est pour ça que dès la fondation de Corde, dans les chartes, la place des commerçants est extrêmement importante. Et c'est pour ça qu'il faut fixer absolument un ou plusieurs jours de marché et des foires, parce que le marché était pour la population locale, mais les foires, c'est il y a des gens qui viennent de plus loin, parce qu'il y a des produits qu'on n'a pas à cet endroit-là, etc. Donc, tout ce monde-là est très touché par ce genre de travail.
Du coup, ça me donne envie de te poser une autre question. Comment on faisait pour se spécialiser à l'époque? Est-ce que c'était, par exemple, ton père était tonnelier, alors tu devenais tonnelier, ton père était paysan, alors tu devenais paysan?
Chez les artisans, c'était un peu comme ça, mais ça s'est mis en place progressivement. Au départ, les agriculteurs, les paysans qui sont là, qui vivent comme ça, quoi, ils font face à leurs besoins. Et eux-mêmes, tu vois, ils travaillent, les mamans ou les filles ou les grands-mères ou les belles-mères, elles filent la laine, elles tissent, etc. Mais évidemment, que ce soit les garçons ou les filles, il y en a qui aiment faire certains travaux plus que d'autres, et il y en a qui sont plus doués pour quelque chose que pour autre chose. Et donc, ils vont développer cette chose-là. Le gamin qui aime, qui voit des sabots, il trouve ça sympa, il va regarder comment le grand-père fabrique les sabots, ou il va aller voir comment le sabotier du coin est là, il va se débrouiller pour l'aider à aller chercher le bois, lui transporter ceci, cela, et mine de rien, il va apprendre à creuser des sabots, tu vois. Et la même chose pour tous les objets nécessaires à la vie. Il y en a qui vont s'intéresser à la poterie, il y en a d'autres qui vont s'intéresser au tissage, et tu vois, toutes ces choses-là, surtout autour du bois, parce que le bois, c'est, dès que t'as un morceau de fer pour le tailler, tu vois, il faut faire attention parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des armes, donc très souvent les couteaux, il faut pas que ce soit des poignards, tu vois. Mais, on y arrive. Je veux dire, les gens se sont spécialisés et à partir de ce qu'ils aimaient, quoi. Et forcément, de père en fils, ça passe plus vite que de voisin à un autre, ouais. Quoi, tu vois, c'est évident. Et donc, il y a comme ça, lorsque un père de famille est vraiment doué, qu'il est reconnu par les alentours, tu vois, quelqu'un vient lui dit, dis donc, Guillaume, tu peux pas m'arranger le joug pour les bœufs, là, oui, allez hop, et le garçon, il voit ça, il dit, oup, et puis ça paye, parce que il voit que, bon, il y a tout d'un coup une douzaine d'œufs qui sont arrivés, en échange, bon, c'est parce que l'argent joue pas beaucoup là-dedans, oui. C'est toujours du troc, toujours, on paye en nature, et donc, le garçon va s'habituer à cela, tu vois. Et donc, il va prendre la suite de son père dans le travail. Il va devenir, en quelque sorte, apprenti, tu vois. Et au fur et à mesure qu'on se retrouve à la fin du XIIe siècle, XIIIe siècle, enfin, la date, ça nous est égal. Aujourd'hui, on n'est pas à 50 ans près à ces époques-là, quoi. Mais on voit une évolution vers des métiers, tu vois, qui se font de père en fils et où, justement, dans le village, dans la vicinité, dans les alentours, etc., un gamin qui a envie, par exemple, de devenir maçon, s'il voit que le copain d'à côté, tu vois, de l'autre côté de la vallée, son père est maçon et que lui aussi, il apprend à être maçon, il va se débrouiller pour se mettre en apprentissage, tu vois. Et donc, il va avoir la permission de ses parents, il y aura une entente pour qu'il se mette à apprendre le travail de maçon ou le travail de charpentier ou tous les métiers possibles qui a. Et donc, il y a comme cela un corps de métier qui va se créer. Et évidemment, ces corps de métier, ils vont prendre de l'ampleur, tu vois, ils vont se structurer parce que la concurrence joue, et il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui produisent plus vite que d'autres, plus cher ou moins cher, enfin, tout ce travail-là, quoi. Et c'est comme ça que les métiers vont se structurer, et surtout avec la montée des villes. Au XIIIe siècle, petit à petit, les petites villes s'agrandissent et beaucoup d'artisans vont se retrouver en ville et vont prendre du pouvoir. Parce que plus tu produis, plus tu peux vendre et donc plus tu prends du pouvoir. Et c'est une donnée très importante et qui est codifiée. Et ça, c'est parce que dès que les seigneurs ou les... Enfin, tous ceux qui ont un pouvoir quelconque, ils font attention à ça, parce que les gens, quand ils se mettent ensemble, de suite, ils font attention à maintenir leur droit, si on peut... J'emploie le mot « droit » entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose qui est écrit dans la loi, mais la coutume, tu vois. Jusque-là, on a toujours pris des arbres dans tel coin de la Grésigne, et bien, on veut pouvoir continuer à prendre un arbre dans ce coin de la Grésigne, parce qu'on a l'habitude, parce que ceci, parce que cela, quoi, tu vois.
Je vois. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a une rémunération pour les artisans qui travaillent pour le seigneur, ou est-ce que le seigneur a la mainmise sur toutes les personnes qui vivent dans le territoire qu'il gère ?
Dans le territoire, il a pas la mainmise, si on peut dire, au sens de récupérer absolument tout le produit du travail des gens qui sont là. C'est pas exactement ça la mainmise. C'est la mainmise, c'est veiller à ce que tout se passe bien. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui se disputent, il y en a un par exemple qui a par accident ou on ne sait pas pourquoi a tué la vache d'un voisin. Bon, on va trouver le seigneur et on lui dit voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, lui, il veut pas me rembourser ma vache, et moi, j'ai plus de vache. Enfin, tu vois, et le seigneur doit décider. Il fait son enquête, il écoute les voisins, des témoins, etc. Et il dit, bon, eh bien, écoute, tu l'as fait exprès, donc tu dois payer, ou je te punis de telle façon. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Et il y en a comme ça, en pagaille. Il est obligé de gérer ça, et très souvent, il le fait gérer par... un gars à lui, oui. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui un juriste, tu vois, un gars qui a un peu de bouteille, qui a réfléchi, qui connaît les habitudes, qui aime ces histoires de conciliation, tu vois, et qui donc est chargé, au nom du Seigneur, de préparer, de faire le procès, tu vois, et si c'est nécessaire... de monter à l'étage au-dessus, parce que au-dessus le seigneur, il est vassal d'un autre seigneur, et cet autre seigneur, il est vassal du comte, tu vois, et ainsi de suite. Donc, on peut aller d'appel en appel si on lâche pas le morceau, et il y en a qui lâchent pas le morceau, tu vois, c'est ça. Donc, le seigneur, il est d'abord pour ça, mais c'est évident que quand il y a des tas de domaines où il donne des ordres pour avoir un résultat, tu vois, il va dire, par exemple, on construit maintenant... un chemin, le chemin entre Noailles et Cahuzac, il est trop accidenté, trop abîmé, et il faut l'empierrer, sinon à chaque hiver on s'en sort pas, bref. Donc il va prendre un certain nombre de travailleurs, de gens à qui il sait qu'il a le droit de demander un travail, tu vois, il va leur dire, bon, vous allez me faire ce travail-là, tu vois. Bon, et en fonction de ce travail-là, il va soit le mettre dans le cadre global de ce que les gens lui doivent, tant de jours de corvée par an, par exemple, on appelle ça corvée, tant de jours de travail gratuit pour le Seigneur, ou bien au contraire, je vais te payer tant, c'est-à-dire tu seras nourri ou autre chose comme ça. Donc c'est très, très, très fluctuant, très, très diversifié, parce que justement, parce qu'on n'est pas dans un système où, bien sûr, il y avait le droit romain, mais entre les Romains et le Moyen-Âge, il y a eu les Gallo-Romains, il y a les Visigoths, des lois qui ont changé, etc. Alors, bien sûr, il y a des coutumes qui continuent d'exister, mais enfin, en règle générale, c'est pas le cas, tu vois.
Oui.
Mais le Seigneur, faut pas le croire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut. Hein. C'est pas du tout. Il est tenu par un certain nombre de règles à respecter, et les gens, s'ils les respectent pas, ils se mettent debout, et je dis pas qu'ils vont pas faire, si, ils en ont fait des révolutions, les paysans, mais habituellement, bon, ils se font trucider, parce que les seigneurs se mettent tous ensemble, ils arrivent à cheval et avec des épées, tu t'as vite fait de calmer les paysans.
C'est ce que je voulais te demander, s'il y avait eu des grosses révoltes de paysans.
Quand tu vois ce qui se passe entre les CRS et les Gilets jaunes aujourd'hui, autour des Champs-Élysées, etc., tu sais que il y a des gens qui travaillent à main nue, qui se battent à main nue, et d'autres qui se battent avec des armes, et quand ils sont en plus entraînés, structurés, on sait que ça va se terminer mal, quoi, tu vois. Donc il faut trouver une autre solution, et c'est pour ça qu'on va chercher des ententes, des solutions politiques. Hein. Mais d'une façon générale, il y a quand même, je trouve qu'il n'y a pas de cette violence que parfois on dit dans les livres, dans les romans, etc. On a une vision très 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 dure, très négative des seigneurs, tu vois. Il faut la nuancer.
D'accord.
On s'arrête un moment. Down.
get run over or you might get shot. Never start no static, I just get it off my chest. Never had to battle with no bulletproof vest. Take a small example, take a did it from me. Take all of your money, give it all to charity. Love is what I got, it's within my reach. And the sub lifestyle's still straight from Long Beach. It all comes back to you, you're bound to get what you deserve. Try and test that, you're bound to get served. Love's what I got, don't start a riot. You feel it when the dance gets hot.
Love is what I got. I said remember that. Love is what I got. I remember that. Love is what I got. I said remember that. Love is what I got.
Why don't cry when my dog runs away? I don't get angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and goes right to the rock. Fuck it and ride it, it's all the same. Living with Louis Dog's the only way to stay sane.
Let the loving come back to me.
Corde 2022, Michel Bonnet, avec Louise aujourd'hui. Louise, la parole est à toi.
Tu m'as dit que pour la construction de cordes, il y a beaucoup d'artisans et d'ouvriers qui sont venus. Est-ce que ça a un peu vidé les petits villages autour? Est-ce que ça a été un rassemblement de tous les petits villages, tous les petits rassemblements de paysans qui se sont tous rassemblés à cordes? Comment ça s'est passé?
Il y a eu deux choses. Il y a eu un rassemblement, d'abord, des petits seigneurs, qui étaient, tu vois, parce que dans chaque village, il y avait 2, 3, 4 seigneurs, hein, ça ne vaut pas quoi. La Barthe-Blaise, il y avait 3 seigneurs, à Lexos, il y en avait 4, à Millars, tu vois, parce que, à cause de cet effritement.
Oui, des fils, etc.
Quoi. Et donc, plutôt que d'être, il y en a certains, tout en restant seigneurs, à la Barthe-Blaise, ou à Noailles, ou à Sesterol, tu vois, et, qui sont venus, ont décidé de venir s'installer à Cordes.
Avec leurs vassaux avec
comme ça, à titre personnel, quoi, tu vois. Ils sont venus parce qu'ils se trouvaient mieux là, pour des diverses raisons. Mais c'est évident que quand ils viennent là, il y a une certaine pression, si on peut dire, des gens du village où ils sont, enfin d'où il était, en disant ben je vais venir travailler pour vous à Cordes, tu vois, ou quand lui il est à Cordes et qu'il a besoin d'avoir, je ne sais pas moi, il veut faire un repas avec des amis et tout le reste, il a besoin de quelques douzaines de supplémentaires, il va les demander chez lui, tu vois, voilà. Donc il y a des relations qui se créent et il y a donc des paysans, des gens qui vont venir, ne serait-ce que pour aider le seigneur à vivre si il a un train de vie qui demande d'avoir quelques domestiques ou quelques gars autour. Et puis il y a une chose aussi, c'est que il connaît dans la population, dans son territoire, il connaît ceux qui ont des spécialités. Il sait qu'un tel il est particulièrement bon tisserand, tel autre il est doué pour teindre l'indigo ou autre chose, tu vois. Donc il va les faire venir. Parce qu'il va leur dire, vous pouvez avoir du travail, ça peut être sympa, tu vois. De même que, surtout pour la construction, quand il va s'entendre avec les maîtres constructeurs, parce qu'ils ont besoin d'un tas d'ouvriers, et donc ils ont besoin de main-d'œuvre, il va proposer, quand il sait qu'il y a des hommes ou des femmes de son village, de son coin, qui voudraient bien trouver du travail à Cordes, il va aider à cela. Donc il y a ça. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait subitement une accumulation de gens, une migration des gens des villages des environs. Il y en a eu quelques-uns, il y en a eu bien sûr. Mais pas tant que ça. D'abord parce que des villages, il ne faut pas les imaginer comme on les voit aujourd'hui. L'habitat est très dispersé, tu vois. mais ils se retrouvent autour d'un cimetière, tu vois, à Saint-Pierre de Cantoul, à Saint-Jean de Mordagne, il y en a comme ça, par-ci, par-là, des endroits, donc, et ils restent à vivre là où ils sont, mais ils prennent des liens avec Corde, c'est-à-dire avec tel marchand, avec tel artisan, ils viennent à tel rassemblement, et surtout, ils viennent au marché. C'est extrêmement important pour les gens, parce qu'il y a des tas de choses qu'ils ont chez eux et qu'ils peuvent ne pas consommer pour les mettre sur le marché, pour les vendre, faire un troc et revenir avec quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu vois, par exemple, un des commerces qui était important, c'était celui des ramasseurs de ruches d'abeilles. Et tu avais des gars qui, dans la forêt de la Grésine, passaient leur vie, leur journée, etc., avec des paniers en osier, à collecter des ruches d'abeilles. Mmh. Ils savaient comment les prendre, les amener, etc. Et à partir de là, bon, eh bien, ils avaient du miel, ils avaient de la cire. La cire, c'était une richesse fondamentale de l'époque, et on avait un besoin absolu pour s'éclairer, tu vois. Et donc, lorsqu'on payait les impôts au seigneur ou au curé, etc., très souvent, on le faisait en kilos de cire. Et quand on était un peu doué, on mettait la cire en forme de cierge, mmh. et donc ça rapportait davantage. Ouais, c'est évident, hein, plus tu travailles, mieux ça vaut, quoi. Et donc, tout cet aspect-là, de la cire, des cierges, la cire, ça servait aussi pour des tas d'autres choses, bref, plus le miel, qui était énorme, parce qu'il n'y avait pas de sucre à l'époque, hein, le sucre n'existait pas, et donc, tout ce qu'on pouvait avoir de sucré venait du miel, essentiellement. Quelques fruits, bien sûr, tu vois. Mais voilà. Donc, sur le marché, on proposait comme cela des. Ça amenait les gens à venir ici. Et c'est évident que quand tu viens toutes les semaines au marché, par exemple, pour amener 2 ou 3 kilos de cire ou 500 grammes de miel ou autre chose, ou les champignons que tu as cueillis la veille et ton panier de champignons, tu vois. Tu te fais des copains, tu parles, etc. On boit quelquefois, on boit un coup ensemble. Enfin, il y a toute une convivialité qui se met en place, et donc on se dit, tiens, mais je pourrais peut-être habiter ici, parce que Corde, faut pas croire que Corde, quand on l'a construite, elle était bourrée de maisons comme aujourd'hui. Et c'était des cabanes en bois à 9 fois sur 10. Et c'est autour de l'enceinte. Il y a eu des maisons en pierre. C'est après, petit à petit, au fur et à mesure que les gens sont devenus un peu plus riches, qu'on a fait des maisons en pierre au début. Et il y avait des espaces libres, tu vois, c'était pas bourré. Mmh. Ça s'est rempli progressivement. Donc, les gens qui venaient, tu vois, ils arrivaient et ils prenaient goût à l'ambiance, à la vie de Corde, ils se faisaient des amis, et au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, ils trouvaient du travail. En particulier parce que le comte de Toulouse avait poussé, au développement économique de Corde au maximum, et pour ça, le numéro un, c'était tout ce qui touchait au tissu, à l'habillement, quoi.
Mais quand on travaillait, on travaillait pour le seigneur, du coup, là, on ne travaillait pas pour...
Ah non, là, tu peux travailler pour le seigneur, mais une fois que t'as donné au seigneur ce que tu lui devais, et t'as un surplus que tu peux avoir, parce qu'à Corde, t'as pas de seigneur.
C'était ça ma question. D'accord.
Voilà.
Oui.
C'est ce
travaille pour toi.
Tu vois, dans les livres, dans les livres de l'époque, dans les chartes, etc., quelquefois on emploie le mot castrum, le mot château, pour dire qu'il y avait un. Mais c'est faux. C'est faux parce que. C'est faux. L'interprétation que l'on en donne souvent est fausse parce que quand on entend le mot château, on pense de suite muraille, donjon, château fort, tu vois, enfin, un truc de ce genre-là. Non. Là, c'est une maison un peu plus. Grande ou un peu plus belle que les autres, où les invités, où les consuls se réunissent, et le comte, quand il passe, tu vois, le seigneur. Oui. Donc, il n'y a pas un seigneur qui... C'est la communauté qui a élu des gens. Et c'est là où c'est important de se rendre compte que ces contacts que les gens ont à travers le travail et à travers le marché... On n'est pas aux pièces comme aujourd'hui, et quand on passe du temps à discuter, à s'amuser, il y a des fêtes aussi, parce que n'oublie pas que on a le samedi, il y a 180 jours par an où on peut travailler, c'est tout, hein. Le reste on ne peut pas, hein. C'est interdit. Et parce que c'est le dimanche, parce que c'est jour de fête, parce que c'est jeûne, etc., etc., etc.
Tout autour de la religion, je suppose.
Ah oui, tout à fait. Sans la religion, tu comprends rien au Moyen-Âge.
Hein. Oui.
Ça, c'est clair. Mais alors, donc les gens, ont une certaine convivialité, etc. Et à partir de là, il y a des gens qui émergent. Il y a des gens qu'on aime écouter, avec qui on aime parler. Si on a un souci, on va leur poser la question. Donc, et progressivement, il y a comme ça ce qu'on appelle après, qu'on va appeler un jour des consuls, c'est-à-dire des bons, on les appelle à l'époque des bons hommes, c'est-à-dire des hommes en qui on peut avoir confiance, tu vois, qui sont un peu plus sérieux, qui ne pensent pas qu'à leur profit, etc. Des bonnes femmes aussi, mais moins parmi les femmes. On est encore très machiste, même aujourd'hui, alors à plus forte raison à l'époque. Mais donc, il y a ça. Puis, il y a une donnée qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que lorsque le comte de Toulouse a décidé de créer Cordes, il en avait parlé avant avec ses copains à Toulouse. Je dis copains entre guillemets, quoi. C'est-à-dire les gros richards de Toulouse.
Ouais.
Les banquiers, les grands marchands, ceux qui faisaient du commerce international avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec Lyon, tous ces gros marchands très riches et qui, à cause de la guerre des Albigeois et des bagarres avec Simon de Montfort, ont fait l'expérience. Ça se terminait, tu vois. Simon de Montfort vient d'être tué il y a à peine 3-4 ans, quoi. Hein. On est encore en guerre. Et ils ont eu une peur bleue. Les riches, de quoi ils ont peur? Qu'on vienne piquer leur coffre-fort. Qu'on vienne prendre leur argent, quoi. C'est clair. Or, dans une ville, une grosse ville comme Toulouse, t'as des bandits, des gris, à tous les coins de rue, ou presque. C'est très difficile. Ça donne une crainte aux riches pour préserver leur richesse en cas de guerre supplémentaire, enfin,
tu vois, pillage, parce que,
des choses comme ça. Ouais. Et ce que fait le comte de Toulouse, Raymond VII, ça c'est pas un coup de génie parce que ça va de soi, mais il leur a dit, venez investir à Cordes. Je vous fais des murailles, c'est inexpugnable, c'est au sommet, ça sera protégé. Personne ne peut rentrer là-dedans. C'est petit, donc tout le monde va se connaître, plus ou moins. Vous aurez une maison, vous la faites. Ils ont le fric pour se faire des belles bragues. La preuve, ils y sont encore petit à petit. Mais il y a tout cet apport, tu vois, de capitaux, mais de capitaux qui vient avec des gens, avec des hommes, des femmes, et des gens qui sont des familles, qui ont des serviteurs, qui ont des relations, qui ont des secrétaires pour écrire, qui ont des habitudes de comptabilité, tout ça, qui viennent ici et qui transforment les gens au fur et à mesure. Tu vois, tu me fais cette paire de sabots pour dans combien de temps? Oh, mais le plus tôt possible. Non, c'est 8 jours ou c'est 10 jours? Tu vois, tout d'un coup, on est obligé de se mettre à compter, tu vois, et ainsi de suite. Donc, voilà, tu vois, c'est tout cet ensemble qui fait la richesse. Et qui fait la révolution, si on peut dire, l'aspect révolutionnaire d'une implantation comme Cordes ici, parce que c'est un lieu fermé, mais un lieu où il y a une convivialité sans puissance extérieure. Les Templiers n'ont pas droit à la parole, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de la Capelle de Ségala, ils n'ont pas droit à la parole. L'abbaye de Gaillac, elle n'a pas droit à la parole. L'abbaye de Bernac, elle n'a pas droit à la parole.
On est indépendant à Cordes.
Il n'y a pas d'église à l'intérieur de Cordes.
Ah bon?
Il n'y a pas d'église. Raymond VII, il avait les boules quand il voyait l'église, crois-moi. Il était excommunié la moitié du temps.
C'était un révolutionnaire, Raymond VII, dis donc.
Hein?
C'était un révolutionnaire pour son temps, Raymond
oui,
VII. Hein.
J'aime bien te l'entendre dire, je ne le dirai pas, parce que de suite, les historiens vont arriver en me tombant sur le rable, en me disant, montre-moi quel document tu as pour publier ça. Mais ce que je compte d'ici 2022, justement, c'est de montrer qu'en faisant Cordes, on est au cœur de la politique, d'une politique, d'une philosophie même, vraiment révolutionnaire, au sens où, il a quand même lancé à partir de zéro. Il y avait quasiment trois cabanes sur les pentes de Cordes, tu vois, en 1222. Quoi. Il a lancé ça, et en un siècle, malgré les guerres, malgré le passage au roi de France, etc., et c'est devenu 5000 habitants, une des cités les plus riches et les plus florissantes de la région. Quoi, tu vois. Donc, sa conception de la ville était pertinente pour l'époque. Elle collait à l'époque. D'ailleurs, À partir de là, après, il a pas arrêté de faire tout le long de la Garonne, du Tarn, des Bastides, etc. Et Alphonse de Poitiers, qui l'a remplacé comme comte de Toulouse, après, il a continué avec le même type de politique urbaine, tu vois. Et les Anglais ont pris la même chose en Gascogne. Et il a vraiment lancé un mouvement intéressant. Et donc, tu vois, ce qu'il faut... Donc, on en revient à ta question, tu vois. Ce qui fait la force, justement, c'est pas que... Les gens sont venus se réfugier à Cordes parce qu'ils avaient peur de ci ou de cela, quelques paysans, tu vois. Hein, à Saint-Marcel, quand on a brûlé leur maison, trois jours après, ils les avaient reconstruites. Mmh. Faut pas se faire d'illusions, c'est des cabanes en bois, oui. On brûle, montrez bien, une fois que les gars sont partis, on revient. Tandis que là, voilà, c'est tout cet ensemble de gens très différents, avec des métiers différents, avec des capacités financières différentes, avec une culture aussi différente, tout cet ensemble qui a créé une communauté. Qui ne dépend de personne d'autre que d'elle-même.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Cordes 2022, Michel Bonnet et Louise Souris.
Alors j'ai une dernière question pour clore l'émission. Au plus fort de la vie cordaise, combien il y avait de personnes qui vivaient ici et comment ça s'organisait en fait ?
Eh bien, le Cordes a grandi très vite. Très vite, c'est ce qui est même très, très étonnant. Si bien qu'à partir d'une première enceinte, il a fallu en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, tu vois. Voilà. On a la possibilité de savoir à partir des impôts, des feuilles d'impôts, tu vois, c'est toujours utile les impôts, parce qu'on connaît tout le monde. Bref, au bout d'un siècle, grosso modo, il y avait 5 000 habitants à Cordes. Aujourd'hui, il y en a moins de 1 000.
Oui, je sais.
Tu vois, ouais. Donc, tu vois, la masse de gens qu'il y avait, donc beaucoup, beaucoup de monde, très, très dynamique, très riche, à cause de... principalement du tissu, parce qu'on avait le tissage, mais on avait, évidemment, il y a le filage avant le tissage. Hein, tu sais que, ici, on avait des tas de métiers à tisser. Hein, un métier à tisser, deux hommes, à travailler pour une journée sur un métier à tisser, il fallait qu'il y ait l'équivalent de 7 à 8 femmes qui travaillent en permanence pour fournir le fil.
Oui, d'accord.
Donc, ça représente du monde.
Oui.
Si tu as, quand tu as 20 ou 25 métiers à tisser dans la ville de Cordes, tu vois de suite la masse de gens, de femmes que ça représente à faire du filage, à produire les fils, parce qu'il y a différentes sortes de fils, etc.
Et d'éleveurs aussi, il devait y avoir beaucoup de brebis aussi.
Exactement, tu es obligé d'avoir un nombre encore plus important de gens qui s'occupent des brebis, de s'en occupent, etc. Tu as le transport, pour porter le fil jusque-là, mais ensuite pour s'en occuper, pour le teindre, C'est pour ça qu'aux cabanes, il y a toute une un milieu de teinturerie très important depuis toujours. Voilà. Donc il y a toute une ville qui est l'apogée, ça a été 1300 de mon point de vue, c'est 1320, 1340, tu vois, 1320, 1340, c'est-à-dire grosso modo 100 ans après, parce que par malchance, disons en 1348, si je me trompe pas, mais c'est une année près, c'est pas grave, la peste est arrivée ici. Donc on s'est retrouvé avec la population qui, en quelques dizaines d'années, assez rapidement au cours du XIVe siècle, est descendue de moitié. Il y a la moitié de la population qui est morte de la peste. Tu vois. Donc très, très fragilisée. Et ils ont quand même pu s'en sortir parce qu'ils avaient des moyens, enfin, etc. Donc ils ont survécu à ça. Mais de suite après, on s'est retrouvé avec la guerre de Cent Ans, où le roi de France s'est bagarré avec des Anglais et la frontière passait là. Mmh. Et la frontière, elle passait à la guépie. C'est pas loin.
Ah, je savais pas.
Tu vois. Donc, ça touchait véritablement et les gens ont été obligés de se protéger. Enfin, moi, je parlerai pas de cette époque-là parce que je l'ai pas étudié, si on peut dire. J'ai quelques idées comme ça parce que. ça a été très important pour le développement de Corde, tu vois. Pour l'arrêt du développement de Corde. Ça a repris un peu après, tout doucement, mais ça a été très difficile parce que, disons, l'ensemble du pays a complètement changé. Le roi de France a installé le pays autrement, avec une bureaucratie différente. Tu vois, on dépendait d'un sénéchal qui était à Toulouse, etc. Et puis l'Église a pris du pouvoir en 1320, enfin. L'Église est arrivée à Corde, elle a été reconnue, il y a eu de grandes cérémonies, etc., etc. On a bâti une chapelle en souvenir de ça, et puis ensuite il y a eu une paroisse, un archiprêtre, et tout, quoi, tu vois. Donc, là, vraiment, je considère que le XIIIe siècle, de 1222 jusqu'à grosso modo 1350, ça a été la période la plus faste de Corde. Il y a eu, on n'a jamais atteint de nouveau ce nombre de personnes vivant à Corde, et je pense que non plus on n'a pas atteint ce niveau de vie économique ou sociale. Voilà. Bien, voilà, on en reparlera, on a encore le temps, les émissions continuent. Merci à Louise d'avoir donné cette animation, j'en suis très content. N'hésitez pas vous-même, si vous voulez poser des questions, à nous les faire connaître, et nous vous disons à la prochaine fois. Merci de votre attention. Au revoir.
Au revoir.
C'était Corde 2022.
Spurban, ma fille, pour te prendre. En Spurban, baby, ma fille, pour te prendre. En Spurban, en Spurban. My feet, he touched the ground, baby. They're bound. Loving way, magic. Loving way, with your magic. Loving way, my mind. In a hay, my mind. My mind. And hey, your loving way. Can't find love, baby. Your magic, love, baby. Your magic, love, baby. Walking. Loving way. I can't help Hey, hey.